Interview.
Vai começar o baile Brasil popular.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Benjamin Rouchi. Bonjour.
Salut Yves, bonjour le Diwa.
Comment vas-tu?
Je vais bien et toi?
Ça va. Et tu es ici pour nous parler donc de Baloué.
Exactement.
Baloué qui est dans le cadre d'une saison culturelle France-Brésil, qui fête sa 5e année d'ailleurs. Et ça sera avant tout de l'expression musicale, de la danse et peut-être bien d'autres choses.
Exactement. Donc Baloué, c'est un projet qui est né il y a 5 ans dans le Diwa et qui depuis est devenu itinérant. Et en 5 ans, on s'y prépare pour la 18e édition. On était au Brésil, on était en Espagne et plusieurs villes en France, notamment Paris, Lyon, Marseille. Mais ça reste quand même le Diwa, sa base. Et pour fêter la 5e année, on fait ça dans le CLAPS, le week-end de 1, 2 et 3, où on reçoit une caravane de plus de 40 artistes brésiliens qui viennent du département de Pernambuco, berceau de plusieurs manifestations culturelles, notamment comme samba, forró, cavalo marinho, maracatu rural, ciranda, coco. Et ces 40 artistes viennent justement dans une caravane qui mélange le trad, le contemporain, la funk, la musique du monde, comme on dit, entre un spectacle de danse contemporaine qui fait toute une recherche dans le trad, une compagnie de danse qui s'appelle Grupo Experimental, qui ont plus de 30 ans de carrière. On reçoit également le groupe Mundo Livre, qui il y a 40 ans de carrière, et notamment des partenariats avec Manchao, Massilia Sound System, Fela Kuti, une large carrière partout un peu dans le monde. On reçoit aussi Forró na Caixa, qui c'est un groupe de forró déjà connu de Diwa. On reçoit Natasha Falcão, qui était nommée au Grammy de la musique latine l'année dernière et qui il y a une large tournée en France et en Europe cette année aussi. On reçoit également la Caravane da Cultura Pernambucana en Europe. Et là, c'est un projet qui rassemble plusieurs manifestations culturelles de Pernambuco, notamment le Coco do Amaro Branco, qui est représenté, Os Poetas da Mata Norte de Pernambuco, donc c'est des gens du maracatu rural, de la ciranda, plusieurs maîtres qui se sont réunis dans cette caravane, comme Anderson Miguel, Nailson Vieira, Lu, Juninho e Anderson do Coco, pour promouvoir cet événement. Il y a aussi le groupe franco-brésilien basé sur Paris qui s'appelle Piaça, là c'est un mélange de jazz, de la musique du monde, avec Natasha Falcão, qui était nommée au Grammy l'année dernière, pour la première soirée.
Donc, essentiellement musical, avec de la danse également pour ce premier soir?
Je dirais qu'on commence avec une musique, une manifestation folklorique qui... Je dirais qu'on commence avec une manifestation folklorique qui englobe la danse, la musique, la poésie et toutes ces manifestations festives avec la caravane de la culture pernambucana. On enchaîne avec un spectacle de danse contemporaine. Et après, on a de la musique autant trad que plus pop. Toute la programmation vient directement du Brésil cette année.
Baloué, quel est ce nom?
Baloué, c'est un projet qui commence avec ma première venue en France. Une idée, donc l'année prochaine, ça fait 20 ans. Une idée de présenter un autre Brésil. Un Brésil qui ne soit pas du cliché ni de stéréotypes liés à ce pays, cette culture, souvent, qui figure souvent dans une espèce de vision entre le foot, des strings, des cols de samba.
Et le Rio de Janeiro. Hein,
et le Rio de Janeiro, voilà, c'est ça.
Oui.
Donc du coup, le Brésil, c'est un pays continental. Moi, je viens du nord-est du pays. Et l'idée de Baloué, c'était d'avoir un nom propre, déjà, qui n'englobe pas que le Brésil, mais de tout le syncrétisme qu'il y a entre la culture du nord-est du Brésil, l'Occitanie, dont la France fait partie, et cette culture des bails autour du monde, que ce soit en Europe de l'Est, en Europe du Nord, en Afrique, à Cuba, et qu'il y a ces liens. Donc du coup, la musique contemporaine de Pernambouco a ce mélange entre ce qu'on pourrait dire que c'est traditionnel de cette région et toutes les influences qui ont parcouru. C'était l'idée du Baloué. On présente aussi du foro, de la samba et de musique trad, mais on présente aussi un autre bal. Un bal qui ramène Mundo Livre avec une 40 ans de groupe et des syncrétismes avec le rock, la funk, la musique du monde, la danse contemporaine et toutes les influences qui peuvent changer cette musique de ces régions.
Quel est le lien avec l'Occitanie et cette musique du Baloué?
Quand le Brésil il était envahi par les colons, en 1500 environ, ce Portugal et cette Espagne qui arrive faisaient partie de la péninsule ibérique. Donc on peut dire que l'Occitanie, la péninsule ibérique, le Maghreb, c'était une grosse région méditerranée dont baignait une culture des morts de plusieurs peuples qui avaient dans cette formation les troubadours, les cultures des bailes, le violon, les panderos, les rabecas, plusieurs instruments communs de cette région et de ces cultures partagées qui arrivent au Brésil. Donc le syncrétisme de la culture de bail, on a fait une grande recherche avec des ethnomusicologues au Brésil et en France. Et on a trouvé plein de similitudes qui viennent parfois d'une confusion d'un nom, parfois d'un rythme, parfois d'une danse, du nom d'une danse qui peut être complètement changée mais qui continue à porter le même nom. La capoeira, par exemple, elle était interdite au début du XXe siècle et à cause de la libération d'esclavage, de la fausse libération d'esclavage, et elle a dû s'y transformer. Et pour ça, elle a reçu cette culture des fanfares de l'Europe de l'Est, donc des Dunkerque. Et ça a mis une grande influence au Brésil. Donc ça a transformé le carnaval de Pernambouco, qui aujourd'hui traditionnellement porte des parapluies, qui c'est aussi une caractéristique des Dunkerque, par rapport à l'Occitanie. Cette culture de bail folk qui porte plusieurs rythmes, qui se danse en ronde, qui a amené cette culture même des révolutions par la culture, par la musique, par le rassemblement des peuples, bah c'est très présent en nord-est du Brésil. Le bal folk là-bas, on appelle le bal forró, et ça contient plusieurs rythmes dont on va présenter quelques-uns là-bas. Et en septembre, on reçoit aussi Silvério Pessoa, qui est présent en concert avec La Talvera, qui c'est un grand nom de ce syncrétisme entre la culture du Nord-Est et les groupes occitans, comme la Talvera, comme il y a eu le Corps de la Plaine, Massilia Sound System, Graioli, Dubartas, plusieurs groupes qui ont travaillé, je dirais, dans ces derniers 30 ans. Je pense que c'est vraiment où ce syncrétisme a pris place entre la France et le Brésil.
Cette musique issue ou dont promeut Baloué, très tôt, tu parlais du XVIe siècle, hein, avec la conquête espagnole et portugaise. Est-ce que d'emblée, il y a eu dans cette musique, déjà le rythme hein, ou peut-être aussi des revendications dans les paroles?
On a démarré le projet Baloué avec des podcasts qu'on a fait en partenariat avec la RDOA. Et on a interviewé beaucoup, beaucoup de gens et personne n'ose trop risquer parler des origines et tout. Bon, il ne faut pas cacher que le processus d'occupation brésilienne, c'était un colonialisme très meurtrier. Donc du coup, ce syncrétisme ne s'est pas donné d'une manière agréable, on va dire. C'était plutôt imposé. Ce qui fait beaucoup de gens dire que l'origine de ces balles serait plutôt une culture de peuple autochtone et qui a été trafiquée en Europe. Il y a d'autres courants qui disent que ça serait arrivé avec les Européens là-bas. Je dirais qu'aujourd'hui, le truc important, c'est de savoir que ces cultures, elles existent, qu'elles dialoguent, qu'elles créent des nouvelles. Il y a des gens qui sont très, très poussés pour justement la reconnaissance de ces nomenclatures pour les peuples autochtones. Aujourd'hui, Baloué existe, et depuis son origine, grâce à le partenariat avec des personnes comme Anaïs Vaillon, comme les gens du Barthas, du Graioli, qui c'est des gens qui composent et ils font une musique occitane dans le même sens qu'on fait la musique brésilienne. On cultive tout ce qui est traditionnel en laissant les portes ouvertes pour rendre ces traditions contemporaines et dialoguer avec le moment qui en est. Je pense que ça, c'est le plus important, c'est de savoir que cette musique, elle est vivante, qu'elle se transforme et qu'on peut aussi réparer certaines erreurs du passé en la maintenant vivante.
Nous allons peut-être écouter un premier extrait musical, Piazza.
Piazza, donc, groupe franco-brésilien basé à Paris, qui va jouer la 12e soirée. Le samedi 2 août au Claps.
Nous écoutons.
Tu vois quoi,
Baloué.
Traz o que é sã, se germina, alimenta amanhã. Vento vem de Ansã, traz carinho de irmã e o ar que há de voltar de novo. Me ensina a passar, mas deixe ficar o gosto. Pra saber por onde andaria, em bons ventos vem calmaria. Tempo que passa na graça da raça de um povo que canta um ei, ei, ei. Bate o vento, areia que levantar. Ei, ei, ei. Bate o vento, areia que levantar. Ei, ei, ei. Bate o vento, areia que levantar. Ei, ei, ei. Bate o vento, areia que levantar.
C'était Piafa avec le titre
Areia, ça veut dire le sable.
Tu disais donc à l'avènement de ce colonialisme espagnol et portugais qui ont amené aussi des cultures telles que les Maures, le Maghreb, l'Occitanie.
Les Celtes
avec leurs instruments et leur musique tout simplement. Il y a eu cette... Ce débarquement hein, de la culture occidentale au Brésil, où existait déjà aussi cette musique. Tu peux nous en parler
Souvent, quand on parle des Amériques, on parle du Nouveau Monde. Et bon, là-bas, il y avait déjà les peuples originaires qui ont une culture très riche et qui, malgré tout le massacre qui suivent depuis ces 500 ans, ils arrivent quand même à garder cette culture, plusieurs langues... Donc, du coup, c'est vrai que peut-être c'était la première fois que le monde expérimentait l'arrivée de toute une civilisation européenne, donc baignée dans toute cette culture que tu dis, notamment d'autres, parce que ma famille, par exemple, s'appelle Agra. Et ça saurait parce que c'était des arrivants d'Inde, donc de la ville d'Agra, qui ont traversé. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment tout le monde qu'on connaissait à cette époque-là ont débarqué à Pernambouco. Et à Bahia, surtout. C'était les deux premiers grands départements qui ont connu aujourd'hui, qui seraient les grandes arrivées. Donc, Pernambouco, notamment, est reconnu comme le berceau des plus de 20 manifestations culturelles différentes, entre frevo, maracatu, maracatu rural, samba, coco, caboclinho. C'est vraiment très, très vaste. Et ça serait probablement pour le métissage et le syncrétisme. Donc, je répète, au début, pas très voulu, mais plutôt imposé, mais qui, avec le temps, sont développés comme des rythmes qui ont eu son berceau à ces régions du Brésil, au nord-est du Brésil.
Est-ce que tu voulais dire que cette culture méditerranéenne hein, ou européenne voulait imposer cette culture musicale à ce peuple qui, lui, en possédait énormément déjà. Est-ce qu'il y a eu ce conflit aussi d'imposer une musique sur une autre pour l'histoire?
Dans le livre « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », ils font un bon portrait de cette occupation européenne. Et quand les Européens ils arrivent au Brésil, ils n'ont pas arrivé pour... colonisés même. Ils ont arrivé pour détruire et tuer tout le monde et refabriquer ce qu'ils avaient en Asie. L'Asie, c'était un peu l'agriculture qu'on ne pouvait pas avoir en Europe et ils ont reproduit ça là-bas. Donc du coup, c'était plutôt un massacre et une imposition de ces cultures là-bas. Avec la résistance des peuples originaires et l'arrivée dans l'esclavage des peuples africains, aujourd'hui, on exalte une culture afro-brésilienne et des peuples originaires très, très grandes qui ont réussi à résister et à créer de nouvelles modalités là-bas. Donc, je répète, l'histoire n'était pas belle, mais elle a donné naissance à plus de 20 manifestations différentes qui, Pernambuco, c'est le berceau, à cause de ces grands arrivages à ce porto qui est à Recife et à Olinda, la première capitale, beaucoup à cause de la canne à sucre. C'était la première grande exploitation. Après, il est arrivé le café, le cacao et tous les autres cultives. Donc il est arrivé d'une manière un peu forcée, on va dire. Il est arrivé d'une manière un peu forcée et après, c'est devenu un syncrétisme, un métissage culturel développé là-bas.
Le bois de Pernambouc, connu pour être constitutif de l'archer qui permet de jouer le violon, ça a été quelque chose de symbolique, ce bois, justement, et de cette imposition culturelle au Brésil, avec cet instrument qu'est le violon, hein, qui n'existait pas, j'imagine, en Brésil à cette époque-là.
Les origines des instruments, c'est toujours une grande question, parce que un bout de bois qui tire une corde, je crois qu'il existait partout dans le monde depuis longtemps. Le violon tel quel, non, je pense pas. En tout cas, on parle au Brésil que c'est une influence arabe, des violons arabes qui arrivaient là-bas. Là-dedans, il y en a beaucoup de syncrétisme culturel entre les troubadours, cette culture des challenges, des deux personnes qui font des vers en improvisation et qui on retrouve autant dans le maracatu rural ou qui de coco et dans d'autres manifestations. En tout cas, le bois Pernambuco, moi, je n'ai jamais connu avec ce nom au Brésil. Il me semble que c'est un bois qu'on appelle pau-brasil et qui a donné nom au pays. Et qui probablement on connaît en Europe par le nom de Pernambuco, parce que justement c'était la première destination européenne au Brésil. Le premier grand port de l'Amérique du Sud, c'est sûrement Recife. Et donc du coup, je crois que c'est pour ça que ça disait, ça vient de Pernambuco, ça vient de là-bas. L'or blanc, le sucre, le bois rouge, Pernambuco, et j'imagine qu'il y a plein d'autres cultives.
Cet esprit du baloué, donc, est en quelque sorte aussi une caravane, hein, avec son lot de découvertes et puis de propositions de ce qui se fait, hein, dans cette culture sud-américaine. Et il y a donc des propositions qui auront lieu pendant ces trois journées, notamment la gastronomie. En quoi consistera cette proposition?
Exactement. Baloué, c'est une caravane itinérante multidisciplinaire d'éducation populaire. Cette année, on a commencé les activités en janvier à la Villa de Olinda, première capitale de la culture, tombée par UNESCO et connue par son carnaval. Donc on a rassemblé une résidence d'artistes et là-dedans, on a fabriqué de nouveaux podcasts, quelque chose qui en monte depuis le début de Baloué, dans l'objectif de montrer une recherche de ce qu'on fait, présenter les artistes qui font partie de la caravane et présenter les activités qui, cette année, ont eu lieu le premier week-end de juillet en Ardèche. Après, le deuxième week-end, on était à Sète. Le 1, 2, 3 août, on sera au CLAPS. Donc, du coup, avec Mélanie qui présente une gastronomie brésilienne avec feijoada et d'autres plats brésiliens. Et également La Parallèle, qui c'est un centre d'accueil aux migrants des droits civils et dans d'autres choses, et qui c'est une association qui nous accompagne depuis l'origine du festival. En Ardèche, on est aussi avec Au Vive, qui c'est un centre d'accueil pour des femmes agressées autour du monde, qui ont cet accueil, ce refuge en Ardèche, qui ont aussi participé dans la construction du décor du Baloué. Donc, il y a le Poulpe qui organise aussi donc une association plus dans la technique du spectacle. Donc, Baloué, c'est un rassemblement de plusieurs collectivités dans cette itinérance. Donc, vendredi 1 et samedi 2, on a des concerts, spectacles, gastronomie. Et le dimanche 3, on a des ateliers, des danses traditionnelles contemporaines, cette transition, des musiques avec la caravane da cultura pernambucana, avec les rythmes de ciranda, coco, maracatu rural. Et on aura aussi de la capoeira. Et comme traditionnellement, tous les ans, les bails du vendredi et du samedi commencent par une capoeira. Et le dimanche, on a l'atelier de capoeira avec Manuka, prof Manuka du groupe Chapéu de Couro, qui vient aussi directement de Pernambuco.
Ces ateliers sont à prix libre.
Les ateliers à prix libre.
Et donc, ça s'adresse à tous les âges?
Ça s'adresse à tous les âges. La salle des danses, ils veulent destiner plus au public jeune, mais tous les âges sont acceptés et bienvenus.
Cinq siècles sont passés, hein, avec l'avènement du colonialisme. Qu'en reste-t-il aujourd'hui de cette transformation, de cette mutation culturelle?
Je crois qu'aujourd'hui, on vit un moment assez spécial dans le monde entier, mais particulièrement au Brésil. Il y en a environ 15 ans, on a perdu une présidente qui était élue démocratiquement par un coup d'État institutionnel Et on a subi 6 ans de gouvernement catastrophique, qui c'était un monsieur d'extrême droite qui justement essayait encore de tuer tous les peuples originaires, qui essayait de revenir avec un impérialisme américain, européen, mais ces grosses entreprises multinationales autour du monde qui veulent dominer la culture mondiale. Et ont mis en prison ces gens des gauches qui étaient élus démocratiquement. Et malgré tout ce coup d'État, on a réussi à destituer ces gens-là. On a réussi à remettre les gouverneurs qui étaient au pouvoir de nouveau en place. Et on a mis ces gens en jugement. Donc ils sont à deux doigts d'être en prison. Ils sont déjà en prison domiciliaire. Et on a reçu, comme contrepartie des Trump, le président américain, des tarifs élevés à plus de 50% pour nous remettre en place, pour nous dire qu'on n'avait pas trop ce droit de vouloir mettre ces gens en prison. C'était clairement une réaction par rapport à ça. Donc le Brésil, il réagit, donc il continue les investigations, continue à mettre ces gens en processus et en prison bientôt, Inch'Allah. Donc pour dire que je pense que ça n'a jamais eu fin. Même à la fin de l'esclavage, comme je disais au début, c'était plus dur pour les Noirs qui sortaient de l'esclavage au Brésil. Ils étaient plus privés des droits. Donc, ils étaient complètement interdits, assassinés, mis en prison pour des questions de pratiquer ces cultures. Donc, aujourd'hui, on sort de nouveau d'un coup d'État qu'on n'imaginait pas avoir lieu. Donc là, c'est tout frais. Ça fait 3 ans qu'on a repris ce mouvement de redémocratisation. Donc je dirais que le monde, il flirte de nouveau avec tout ce mode d'impérialisme colonial et que le Brésil subit encore. Mais maintenant, en étant la 6e économie mondiale et président du BRICS, regroupement socio-politico-culturel, je pourrais dire aussi, entre Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, peut-être j'ai oublié quelqu'un. Donc, on arrive à un peu faire face à ces impositions, mais c'est toujours présent. L'oppression, elle est toujours présente, on va dire.
Justement, cet avènement de l'extrême droite au pouvoir au Brésil a mis à mal ce qu'était la société brésilienne, hein, avec certainement des saccages administratifs.
Il a carrément effacé plus d'une dizaine de ministères, entre autres de la culture. Donc c'était vraiment très très violent. Il disait ouvertement, il recommandait ouvertement la mort des peuples originaires, de la communauté LGBTQI+. Donc tout ce qui était, on va dire, des minorités, malgré le fait que je pense que ce nom n'est pas illustratif, la culture, il recommandait la mort de tous ces gens. Donc c'était vraiment un moment catastrophique et qui, pour que ça soit encore pire, c'était arrivé pendant la pandémie. Donc le Brésil, il y a eu plus d'1 million de morts, très probablement, à cause de ce président d'extrême droite qui disait que la pandémie n'existait pas. Et malgré tout le chiffre de morts qui montait, il continuait de dire que c'était une invention de la gauche. Bref, c'était vraiment une schizophrénie sociale ce qu'on a vécu au Brésil. C'était vraiment un grand, grand cauchemar. Et que maintenant Bolsonaro, l'ex-président d'extrême droite, soit en prison, c'est très réconfortant, pas seulement pour les Brésiliens, mais pour le monde qui voit freiner une remontée d'extrême droite. Et ce partenariat, cette année en France, malgré le fait qu'on n'est pas d'accord non plus avec les décisions impérialistes françaises, ça montre que l'Europe s'ouvre à cette redémocratisation défendue par Lula, président de gauche, qui préside actuellement aussi le BRICS. Ça donne une réjouissance de savoir que la redémocratisation, que la réouverture du ministère pour les femmes, pour les droits LGBT, pour la culture, gagne place. Et on est content d'en faire partie et de pouvoir, pour la première fois, avoir une programmation qui vienne directement du Brésil. Pour ces gens qui sont plus que des références culturelles, des résistants, des gens qui font ces mouvements de résistance culturelle, sociopolitique, comme au Mundo Livre, qui ont des activistes politiques très puissants, comme Fred Zelquat. Pour nous, de recevoir toute cette programmation, c'est aussi dialoguer entre toutes les politiques qui ont donné naissance au Baloué dans le Diwa, comme la démocratie libre, comme toute l'agriculture locale, organique, qui fait de nous un territoire reconnu. Dialoguer avec ces politiques de résistance culturelle et sociale qui viennent du Brésil aussi. C'est l'objectif des naissances du Baloué. Les podcasts qu'on a fait en partenariat avec la radio a parlé déjà de ça. Donc pour nous, c'est un moment très sacré de pouvoir défendre la redémocratisation du Brésil et de mettre ça en partenariat avec l'audio à la France. Et l'année prochaine, ça s'élargit au Portugal, Espagne et Angleterre. Donc on est très content que ça prenne sa place à tout ça.
O que será que lhe dá? O que será, meu nego? Será que lhe dá? Que não me dá sossego? Será que me dá? Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas dele vadiar? Será que passa fora o resto do dia? Será que foi-se embora em má companhia? Será que essa criança quer me agoniar? Será que não se cansa de desafiar? O que não tem descanso nem nunca terá. O que não tem cansaço nem nunca terá. O que não tem limite. O que será que será que dá dentro da gente que não devia? Que desacata a gente que é revelia? Que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos toda a Bahia, que nem todos os santos será que será, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá. Que não tem juízo.
L'inspiration des textes, des chanteurs, des groupes, qu'est-ce qui est abordé dans cette parole?
C'est très intéressant. C'est très intéressant ta question parce que j'ai déjà beaucoup entendu dans le Diwa, en Europe, que la musique brésilienne, c'est une musique festive et pas trop engagée politiquement. Ma réponse souvent, c'est quand tu as le droit de présenter une musique manifestante, politique, engagée, c'est déjà parce que tu es dans un territoire des droits libres. La musique brésilienne, elle a dû plusieurs fois s'y déguiser en musique festive et même cacher leurs paroles pour se cacher de la dictature militaire, par exemple. Pendant la dictature militaire, l'ennemi numéro un, c'était Chico Buarque. C'était un poète, c'était un musicien qui avait le grand talent. Chico Buarque, il avait le grand talent d'y masquer les paroles politiques en musique festive. Donc, souvent, ces musiques parlent d'ancestralité, des traditions, d'engagement, des résistances de cette culture. Mais comme dit aussi Chico XVI, l'amour aussi est un acte révolutionnaire. Et quand tu vis dans une dépression, comme on a eu récemment dans ce coup d'État, par exemple, c'est très important de ramener une joie aussi à ce peuple pour qu'il continue aussi de s'y battre et ne baisse pas les bras. Donc cette musique, elle est baignée dans ça, dans l'ancestralité, dans la tradition, mais aussi dans ce pont avec la contemporanéité et avec un message de joie, d'amour, pour que ça puisse continuer d'exister.
Il me vient à l'esprit une chanson, Que sera, que sera. Je crois qu'elle est de Chico Buarque.
Exactement, ouais.
Et de quoi parle-t-elle, cette chanson?
Ça, c'est très intéressant aussi, parce que en France, ça prend une autre touche. Et d'ailleurs, il y a une autre musique, c'est l'hymne du Parti Socialiste, né l'Oiseau, qui c'est aussi une musique brésilienne. Donc, plusieurs musiques en France, il y en a plutôt un côté joyeux, comme si on était au bord des plages, mais qui, en fin de compte, c'est des musiques révolutionnaires. Et Chico Buarque, il parlait toujours avec cette touche pour dire que malgré l'impérialisme, malgré la dictature, on allait continuer d'exister, qu'on allait s'imposer et qu'un jour ça allait être fini et qu'on allait revoir la main dessus. Donc beaucoup de musique de Chico Buarque parle ça, qui sera, entre autres.
C'était cette référence peut-être à ces dictatures.
Le Brésil, c'est la sixième économie mondiale et le deuxième pays plus inégal au monde. Donc cette dictature, elle est toujours présente dans le mode de vie quotidien. Les pauvres touchent vraiment une toute petite partie. Bon, ça c'est un portrait qui est un peu relevé à la taille mondiale, à l'échelle mondiale. Mais au Brésil, c'est très marquant. C'est très marquant comme ces gens, justement, de la culture populaire, continuent en train de la produire de manière indépendante, en ghetto, sans trop d'aide politique de l'État ou des entreprises privées non plus, qui ne sont pas très intéressées d'échanger cette logique. Mais ça continue d'exister, on continue à s'y battre. On jouit aussi ce moment où on a plus de reconnaissance, qui en tourne plus. La caravane da cultura popular, par exemple, c'est vraiment des maîtres traditionnels de leur segment, donc très représentants au Brésil, du coco à Olinda, au Amaro Branco, donc comme la zone da Mata Norte. Et cette année, ils font une tournée qui passe en France, Angleterre, Hollande, et partout où ils vont, sont très bien reçus des gens qui sont très adorateur de cette culture. Donc ça fait plaisir. On voit que grâce à la culture, on arrive à toucher d'autres territoires, d'autres mondes, d'autres cœurs. Et ça, c'est un espoir qui nous mène à continuer d'en faire.
Benjamin, tu es venu avec deux extraits musicaux et aussi avec des jingles. Alors, que signifient ces jingles à tes yeux?
Donc ces jingles font partie aussi des podcasts qu'on a développés avec Erdua, où chaque personne interviewée, et on avait fait 30 interviews, était invitée à chanter pour s'y présenter. Donc, les jingles, c'est un peu un résultat de tout le monde qui a passé par le bureau d'Erdiwa, ou qui en avait fait ça en sauvage, dans la nature. On a beaucoup fait au Brésil aussi des interviews, et dans d'autres endroits en France. Donc, on invite les gens à s'y auto-présenter, dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Et on a un peu rassemblé ça dans quelques jingles qui en présentent la collectivité, la multidisciplinarité du festival.
Il y aura donc, pour finir cette émission, un extrait de Avera avec Sete Eventos.
Un autre groupe de collectif, un trio foro qui on pourrait dire trad du nord-est du Brésil, mais qui on a en accordéon un franco-italien qui joue avec des gens de la île de la Réunion, des balles folk, de jazz, donc qui porte toute sa culture à lui, et chanté par Swad Bens, qui est franco-argélienne et qui a aussi une culture diverse. Donc on sent aussi dans cet extrait, qui d'ailleurs était enregistré à la Nuit du Folk à Châtillon-Adjoua. Vous pouvez voir l'extrait sur internet, c'était filmé là-bas. Donc c'est un trio trad de foro brésilien baigné dans le syncrétisme occitan rayonné italien, dans toutes les influences de la musique du monde.
Il y a aussi une billetterie par internet notamment. Je donne l'adresse www.linkter.ee/Baloué.festival. Je mettrai le lien sur la page de l'émission. Il y a une boîte mail aussi pour correspondre. Sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, vous avez une page.
Exactement. Baloué.festival, c'est autant le Linktree que vous pouvez trouver tous les liens YouTube, billetterie, Instagram et tout ça. Les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est baloué.festival. Donc, baloué.festival, vous trouvez autant les liens que les billetteries, que les réseaux sociaux. Et le mail, c'est baloué.asso@gmail.com. Très facile de nous retrouver. N'hésitez pas. Donc, pour la billetterie, on fait en pré-vente 15 euros pour le vendredi, pour le samedi, qui compte avec 5 spectacles par jour, plus la nourriture traditionnelle. Et le vendredi, c'est à prix libre, les ateliers des danses, musique et capoeira.
Ça se passera donc du 1er au 3 août, de 18 à 2h du matin.
Exactement.
Il y a une possibilité de camper aux alentours ?
Bon, le site du club, c'est un endroit classé. Donc, tous les feux sont interdits, tous les campements sont interdits. Et on compte sur la participation de tout le monde pour bien protéger ce lieu sacré pour nous, Diwa, et pour les gens du partout dans le monde, avec une histoire assez impressionnante. Nous, on est très ravis de faire ça au Claps. C'est un des premiers concerts que j'ai fait ici et que ça se réalise au Claps avec l'aide de la Dreal et de la mairie de Luc. C'est très important pour nous.
Et nous terminons cette émission avec donc Avera Sete Ventos, entre deux jingles que nous écoutons.
Merci Yves, merci la Diwa et salut le Diwa. On vous attend le 1, 2, 3 au Claps. Venez nombreux et faites passer le message.
Bonne soirée à toi, Benjamin.
Merci Yves.
Au revoir.
Au revoir.
Uma viagem. através do tempo, das águas do infinito. Encontro da vida com a morte. Paisagem virgem, lua cheia para guiar meus passos. Voz dos ancestrais, para fechar um vínculo.